Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des douleurs dentaires. Comment soulager, surtout éviter, ces douleurs si particulières. Cette fameuse rage de dents qui peut associer de vives décharges à l'impression de sentir des pulsations dans les gencives, des battements obsédants et dans d'autres circonstances, une tension continue, des sensations qui peuvent se révéler insupportables et inciter à supplier le dentiste de bousculer son emploi du temps pour être soigné de toute urgence. Traiter des affections aiguës lorsque ces douleurs altèrent le sommeil, mais cette santé des dents et des gencives s'entretient au long cours et repose sur la prévention. Brossage soigneux, suivi régulier, y compris en l'absence de pathologie visible, des soins et des mesures aussi simples qu'essentielles de prévention liées notamment à la qualité de l'alimentation ou à l'arrêt du tabagisme, des douleurs dentaires aussi pénibles que fréquentes. Et on attend vos témoignages, vos appels au 33 84 22 75 75. Douleurs dentaires, prévention, prise en charge, traitement, on en parle avec vous, professeur Vianney Descroix, bonjour.
Bonjour Caroline Paris.
Vous êtes chef de service odontologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et tout à l'heure, nous allons retrouver en ligne d'Haïti le docteur Guerrier Gabon, qui est chirurgien dentiste à Port-au-Prince. En fin d'émission, nous évoquerons ce projet de recherche développé par des enseignants-chercheurs de l'École des hautes études d'ingénieurs de Lille, l'HEI. Il s'agit d'un exosquelette destiné aux enfants atteints de paralysie cérébrale, des enfants qui ne peuvent pas marcher. Et nous retrouverons Laurent Perraudy, enseignant-chercheur dans cette école d'ingénieurs, porteur de ce projet intitulé « Motion ».
Priorité santé sur RFI.
Professeur Vianney Descroix, on parle donc de ces fameuses douleurs dentaires, la rage de dents dans le pire des cas. Beaucoup de monde connaissent ces maux de dents. Est-ce qu'il c'est vraiment un motif fréquent de consultation? Les gens viennent vous voir parce qu'ils ont mal aux dents?
Eh bien oui, je dirais que malheureusement même, ils ne viennent nous voir que parce qu'ils ont mal aux dents et que cette douleur est, dans 90% des cas, le premier motif de consultation chez un chirurgien dentiste.
Peut-être à part pour le suivi, professeur Descroix, des enfants pour qui, on va dire, on est un petit peu plus responsable, un petit peu plus sourcilleux sur cette santé bucco-dentaire, peut-être aussi parce qu'en France, on a la chance d'avoir des consultations remboursées à certains âges de l'enfance. Prévention chez les enfants, mais on peut dire qu'après, à l'adolescence, eh bien, on est beaucoup moins regardant sur la beauté et la santé de ses dents.
Alors ça, c'est une vraie question et c'est essentiel. Les enfants doivent voir un chirurgien dentiste dès l'apparition des premières dents, dès l'âge de un an et demi. Il faut absolument aller consulter, ne serait-ce que pour habituer finalement l'enfant à rencontrer le chirurgien dentiste, à rencontrer le contexte du cabinet dentaire. Et le suivi de cette santé bucco-dentaire va devoir se faire, je dirais, toute la vie. Alors évidemment, il y a cette période de l'adolescence où on a affaire à des enfants un peu plus réfractaires et à l'autorité notamment, mais il faut continuer évidemment à les faire voir des chirurgiens dentistes, des orthodontistes également, et puis après tout le long de la vie, un examen bucco-dentaire au moins une fois par an chez un chirurgien dentiste.
Alors on parle justement de ces douleurs, des fois on a mal alors qu'il n'y a rien de visible. D'ailleurs, certaines personnes ne vont pas consulter en disant « je n'ai pas de caries, je n'ai pas de trous dans les dents, c'est pas nécessaire ». Pourtant, s'il y a douleur, c'est qu'il y a quelque chose à traiter, professeur Vianney Descroix.
Nécessairement. Une douleur dans la bouche ne peut pas passer toute seule et est toujours le signe d'une pathologie, même si elle n'est pas tout à fait visible. Et lorsque la carie débute au niveau de la dent peut faire mal et pourtant on ne voit rien au niveau des dents. Il faut faire une radio, il faut faire un examen bucco-dentaire par un spécialiste qui lui pourra déceler les premiers signes de la carie dentaire qui sont totalement invisibles pour les gens.
Avec différentes formes de caries, celles qui créent un trou et puis celles qui sont un petit peu en forme de goutte.
Tout à fait. Le développement de la carie est insidieux et lorsque les personnes se brossent un peu moins les dents ou un peu moins souvent. La carie va d'abord s'infiltrer dans les sillons, petit à petit. Et puis on a des premiers signes qui doivent alerter les gens, c'est-à-dire que au tout début, la carie ne fait mal que avec du chaud, que avec du froid ou que avec du sucré, seulement en étant provoquée. Puis le symptôme va passer. Et là, c'est vraiment des premiers signes d'alerte qui doivent faire dire aux gens de consulter un chirurgien dentiste, parce qu'il n'est pas normal d'avoir mal au chaud, au froid ou au sucré. Et vraiment, dès les premiers symptômes, il faut consulter, parce que plus on consulte tôt, et moins les conséquences seront importantes, ni pour les dents et pour les gens, évidemment.
Alors, justement, dans quel cas, professeur Vianney-Descroix, ces caries peuvent-elles déboucher sur la formation d'abcès ?
Ah, alors là, l'abcès, c'est un des stades avancés de la carie dentaire, puisque vous savez que la carie est une maladie bactérienne, c'est une maladie infectieuse. Ce sont les caries qui produisent des acides, et ces acides vont dégrader, déminéraliser l'émail des dents, puis la dentine des dents. Et lorsque on ne fait rien, qu'on résiste à cette douleur qui est insupportable, et que malgré cette douleur, on ne consulte pas, eh bien l'infection va pouvoir se disséminer à travers la dent, va passer dans les racines de la dent, et va atteindre le tissu osseux au bout de la dent, ou autour de la dent, jusqu'à former un abcès. Et malheureusement, quand on en arrive à l'étape de l'abcès, très souvent, il faut dévitaliser évidemment la dent, voire au pire l'extraire.
Pourquoi certaines personnes sont-elles plus particulièrement touchées par les caries ? Je reviens sur ce mot que vous avez employé, maladie, carie égale maladie. Pour beaucoup de gens, c'est pas si grave. En tout cas, on ne peut pas parler de maladie. On a l'impression que c'est quasiment un désagrément pour l'œil esthétique et pas vraiment quelque chose de grave.
Alors, ça peut être évidemment très grave, puisque les affections dentaires peuvent se développer et devenir de véritables cellulites et infections de la bouche et de la face, hein, qui peuvent nécessiter des hospitalisations, des interventions sous anesthésie générale, tellement l'infection est importante. Et la carie dentaire, dès ses premiers stades, est une maladie. C'est une maladie bactérienne. Elle est due à une dérégulation des bactéries de la bouche qui vont former la plaque dentaire, et cette plaque dentaire va agresser les tissus. Alors certaines personnes vont être plus sensibles aux caries parce qu'elles ont moins de défense naturelle vis-à-vis de ça, parce qu'elles ont une alimentation qui n'est pas équilibrée, parce qu'elles n'ont pas accès à l'hygiène bucco-dentaire normale, et elles vont devenir plus sensibles. On sait qu'il y a une transmission familiale des caries, il y a des familles à caries, tout simplement parce que leurs bactéries sont plus agressives, leur système immunitaire les défend moins bien, ou parce que, tout simplement, ils ont moins accès à l'hygiène, qui reste quand même le premier rempart de cette maladie.
Première mesure de prévention, il y a aussi les traitements de sillons. On parlait tout à l'heure, ces sillons infectés. Ça se fait encore ? C'est quelque chose de plus en plus ?
De plus en plus. Et lorsque l'on a la chance de pouvoir le faire, dès que les molaires vont faire leur éruption.
Pour expliquer, c'est une sorte de vernis ?
C'est une petite résine qu'on met sur la face, le dessus des dents, et qui permet d'éviter l'infiltration des acides bactériens à l'intérieur de la dent. Il faut le faire dès l'éruption des dents définitives, hein, dès l'âge de 6 ans. Les chirurgiens dentistes vont sceller, comme on dit, les sillons, et c'est vraiment une très très bonne façon de se prévenir des caries dentaires.
Alors, hygiène dentaire, le suivi chez le dentiste, on en a parlé. Ce qu'on mange aussi, c'est important. Et puis nos habitudes, y compris les mauvaises habitudes, comme fumer.
Alors, le tabac ne va pas être la première cause de carie, mais il va assécher la bouche. Et on sait que, pour faire très simple, hein, on peut prévenir la carie dentaire avec une alimentation qui est peu sucrée, avec un brossage, évidemment, deux fois par jour. Et puis, les gens qui vont avoir des sécheresses buccales, parce que la salive est un très bon moyen aussi de protéger contre la carie dentaire et la colonisation bactérienne des dents.
Alors, dans certains cas, puisqu'on parle des douleurs dentaires, on parle des caries, on va prendre les auditeurs en ligne dans quelques minutes. Des fois, on a mal aux dents, mais la douleur n'est pas liée forcément à ce qui se passe dans la bouche. On peut avoir mal aux mâchoires, on peut aussi avoir certaines infections. Une sinusite, je pense à ça, certains problèmes de santé qui causent des douleurs dans la bouche.
C'est ça, c'est que toutes les douleurs, alors évidemment, d'un point de vue statistique, quand on a mal aux dents, c'est le plus souvent la dent qui fait mal, mais il faut être très vigilant parce que d'autres pathologies, des pathologies sinusiennes, des pathologies musculaires, des pathologies de l'articulation de la mâchoire, peuvent donner des douleurs à l'intérieur de la bouche. Les dents ne sont pas les seules responsables de ces douleurs buccales. Vous avez aussi des maladies des gencives, des gingivites, qui sont très fréquentes, qui elles aussi sont dues à un défaut de brossage et d'hygiène. Elles peuvent faire très mal et les dents, là, n'ont rien du tout à voir. Et puis après, vous avez de ce qu'on appelle des lésions de la muqueuse buccale, comme les aphtes, qui peuvent faire très mal, ou d'autres pathologies comme ça, dermatologiques au sein de la bouche, qui peuvent donner des symptômes très douloureux sans pour autant que les dents soient en cause.
Alors, professeur Vianney-Descroix, on va continuer à parler prévention et traitement, mais en répondant directement aux questions des auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
La roulette, ça fait peur. C'est pas très malin, ça c'est un petit coup de Didier Bleu, notre réalisateur qui fait des coquineries sans prévenir. On prend tout de suite Sanoussi en ligne, qui est en ligne donc de Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Sanoussi, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute Sanoussi.
Oui, j'ai remarqué que lorsque je consomme des fruits et des aliments qui contiennent de l'acide, je ressens des douleurs lorsque je me bosse. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui est la cause de cette sensibilité et les remèdes.
Professeur Vianney-Descroix, pourquoi Sanoussi, lorsqu'il mange des choses acides, eh bien, il a un ressenti désagréable et qu'est-ce qu'il peut faire pour y remédier ?
Alors, c'est toujours, il faut être toujours très prudent pour faire des diagnostics comme ça à distance et sans voir dans la bouche des gens. Bonjour Sanoussi, je pense que une des premières causes les plus évidentes, c'est le déchaussement des dents et des gencives qui se rétractent et qui vont mettre à nu le début des racines des dents. Et dans ces cas-là, les dents deviennent extrêmement sensibles, notamment à l'acidité et notamment au moment du brossage. Alors, une des choses que l'on peut faire, c'est, et qui est très simple, c'est d'utiliser des dentifrices qui sont faits pour lutter contre la sensibilité dentinaire. En France, on utilise un dentifrice qui s'appelle Sensodyne, qui peut être très efficace pour essayer de reminéraliser au niveau des racines des dents et permettre de les protéger de toutes les agressions acides.
Et si on n'a pas accès à ces produits spécifiques qui ne sont pas forcément en vente en Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué.
Ça va être un peu plus compliqué parce que, ou alors on peut aussi utiliser d'autres produits comme des vernis qu'on peut mettre sur la surface des racines des dents, mais c'est vrai que en absence de ces traitements ou de ces médicaments, on va proposer d'éviter tout ce qui peut agresser comme ça ces dents et ces gencives parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que ces produits qu'on peut appliquer au niveau des dents en fait.
Sanoussi, est-ce que vous savez si justement à Abidjan vous pouvez trouver ce type de on va dire de dentifrice un petit peu traitant pour limiter la sensibilité de vos gencives?
Oui, j'ai même acheté un Sensodyne, il n'y a pas longtemps.
Et vous avez ressenti un effet ou pas assez longtemps justement pour voir si ça fonctionnait ou pas ?
J'ai constaté qu'il y a l'amélioration. Mm-hmm. Voilà.
Donc on peut vous conseiller de persévérer.
C'est ça, il faut l'utiliser assez tout très fréquemment, deux fois par jour, et ça peut demander quelques jours de traitement avant d'être efficace.
Voilà, Sanoussi, excellente journée à vous à Abidjan. On part pour la Guinée-Bissau, directement la ville de Bissau, hein, où l'on retrouve Zulkif. Zulkif, bonjour.
Bonjour, madame Caroline.
Le professeur Vianney-Descroix vous écoute.
Oui, déjà 2 ans que j'ai 4 mollets carrés creuses. Je subis régulièrement des douleurs que j'essaye de soulager avec de l'ibuprofène, de l'amoxicilline. Le brossage, je le fais avec une pâte dentifrice sans sodine, au fait. Je ne consulte pas un dentiste parce que j'ai pas l'intention de les enlever, au fait, et je redoute aussi un plombage mal fait. Pourrais-je éviter les douleurs tout en me passant de les enlever, ces dents, ou de les plomber? Si oui, quelle est votre proposition de traitement?
Moi, j'ai une question à vous poser, Zulki. Vous dites que vous prenez de l'amoxicilline, c'est un antibiotique, vous le prenez sans ordonnance?
Oui, je prends ça de temps en temps. Tout le temps où je ressens une douleur, je prends ça combiné à de l'ibuprofène, ça me soulage de la douleur. Sans ordonnance, bien sûr.
Ben, je suis pas médecin, mais je fronce les sourcils, hein, parce qu'on prend pas d'antibiotiques sans ordonnance, parce qu'après, si vous avez une infection ailleurs qui nécessite vraiment la prise d'antibiotiques, ça va devenir compliqué si vous êtes au long cours sous antibiotiques. Ça risque d'affaiblir votre votre organisme. En tout cas, je donne la parole au spécialiste. C'est le professeur Vianney Descroix qui fronce aussi les sourcils. Hein.
Oui, je les fronce un peu. Bonjour, Soulkif. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous utilisez un traitement qui va être efficace ponctuellement parce que l'amoxicilline, c'est un très bon antibiotique pour les infections dentaires. L'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, un antalgique très très puissant aussi sur ces douleurs-là. Donc, tant que vous prenez ça, bah, ça va vous soulager, ça va vous calmer, mais je pense que ça ne va pas traiter le vrai problème et donc ça va être récurrent. Et comme le dit Caroline, utiliser l'amoxicilline trop fréquemment va entraîner des résistances des bactéries et là ça peut être entraîner des infections beaucoup plus graves. Je crois que avant de parler d'extraction de vos dents, bah, les soigner pourrait être déjà en première intention une solution pour voir si lorsqu'on enlève l'infection de votre bouche, notamment des dents, tout en conservant les dents, les douleurs peuvent se diminuer. Il n'y aura pas malheureusement d'autres traitements plus efficaces que celui d'un chirurgien dentiste et on n'est pas forcément, alors je ne connais pas l'état de vos molaires évidemment, mais en premier lieu, on n'est pas forcément contraint ou obligé d'extraire les dents pour les soigner et pour vous soulager. Et le plombage peut être une bonne solution une fois qu'on a enlevé toute l'infection des molaires.
Ce qu'il y a aussi derrière la question de Soulkif, c'est peut-être qu'aussi il a peur d'aller chez le dentiste. Soulkif, est-ce que vous craignez les soins dentaires? Est-ce que, on va dire simplement, hein, sans jugement de valeur, parce que c'est fréquent chez beaucoup de monde, est-ce que le dentiste vous fait peur?
Oui, voilà, j'ai au fait... Ce jugement-là, je me suis fait une idée et puis je redoute vraiment.
Vous avez peur du dentiste qui est, on va dire, pas oui. Normal, mais bien naturel, hein, professeur Descroix. On a encore des craintes d'aller s'allonger sur la chaise du dentiste et de subir l'ignoble roulette.
Alors, je préfère qu'on dise qu'on a peur de la roulette que du dentiste, voilà. Parce que les dentistes ne font pas peur. Mais effectivement, les soins bucco-dentaires sont très souvent anxiogènes et ils génèrent des anxiétés qui sont tout à fait légitimes et normales. Je ne sais pas comment ça se passe en Guinée-Bissau, mais en France, avec toutes les méthodes qu'on utilise pour anesthésier les gens, pour que les soins se fassent de façon de plus en plus confortable, a priori, on n'est plus censé ni avoir mal, ni avoir peur chez le chirurgien-dentiste. Et finalement, on peut utiliser quelques petites méthodes de distraction quand on y va, se raconter des histoires, essayer d'imaginer des choses plus amusantes que effectivement le fauteuil du chirurgien-dentiste et sa roulette. En tout cas, il faut même peut-être même en parler à son chirurgien-dentiste parce qu'ils connaissent bien ces émotions qui sont générées par leurs soins et que le plus souvent on arrive à avoir des soins confortables en tout cas.
Soulkif, vous êtes déjà allé chez le dentiste ou jamais encore?
Non, jamais encore.
Je pense que c'est une démarche à faire. Vous verrez, en général, ils sont absolument compétents et charmants. Ils ne font pas peur du tout. Et surtout, vous avez vraiment besoin d'être soulagé. Hein. Vous avez des adresses à Bissau? Vous savez vers qui vous tournez?
Non, pas du tout.
Bah, peut-être aller dans un centre de santé où vous pourrez vous donner un centre de santé de quartier où ils pourraient vous donner des adresses pour justement pouvoir vous faire soigner vos dents.
Ok.
Très bonne journée à vous, à Bissau. On va partir pour le Tchad, pour N'Djamena précisément, où l'on retrouve Léva. Bonjour Léva.
Bonjour Caroline Paris. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Léva.
J'aimerais vous demander pourquoi souvent j'essaie au niveau de la dent, et si seulement j'éprouve les aliments, et que quelques particules pénètrent, ou même si rien ne pénètre. Et puis, des fois, j'ai mal à la mâchoire et la douleur pénètre jusqu'au niveau de la tête, alors que j'ai pas la carie dentaire.
Absence de carie, mais des saignements des dents et des douleurs aux mâchoires. Professeur Vianney Descroix.
Bonjour Léva. Je pense que ce ne sont pas les dents qui saignent, c'est généralement les gencives qui saignent parce qu'on a ce qu'on appelle des gingivites ou des parodontites qui sont l'autre pathologie la plus fréquente de la bouche. Et le plus souvent, ces saignements, alors évidemment, je ne vais pas faire un diagnostic par téléphone, mais ces saignements vont passer en ayant un bon brossage. 3 fois par jour, de bien brosser les gencives pour enlever la plaque, pour enlever le tartre. Alors parfois, quand ça fait trop longtemps que la plaque dentaire est là, le tartre est tellement dur sur les dents qu'il faut absolument voir un chirurgien dentiste pour qu'il enlève vraiment ces dépôts de calcaire qui sont sur les dents et qui vont faire saigner les gencives. Les dents ne saignent pas, elles ne peuvent pas saigner. Donc c'est le plus souvent quand il y a des saignements, des petites lésions de la gencive qui vont nécessiter vraiment là du coup de voir un chirurgien dentiste. Pour les douleurs des mâchoires, ça peut être être encore autre chose. Ça peut être simplement des douleurs peut-être musculaires ou de l'articulation qui font mal. Mais là aussi, ça va nécessiter qu'un spécialiste puisse regarder.
Léva, vous brossez régulièrement les dents ?
Oui, je brosse régulièrement les dents, matin, midi, soir.
Ouais, donc une bonne hygiène dentaire.
C'est la première chose. Après, effectivement, ça va nécessiter de faire d'autres examens, peut-être une radiographie, peut-être de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Quand ça saigne, le plus souvent, c'est une gingivite ou une parodontite, et elles vont nécessiter l'intervention d'un chirurgien dentiste.
Donc, allez consulter un dentiste, si c'est possible, Léva, justement, pour qu'il regarde vos dents, voir quel est le niveau de tartre sur vos dents pour éventuellement vous soulager. On vous souhaite une très bonne journée à N'Djamena. On parle pour le Burkina Faso, pour la ville de Kemara, où nous sommes en ligne avec Souleymane. Bonjour Souleymane.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le professeur Descroix vous écoute.
Voilà, moi, j'ai des douleurs au niveau des maxillaires, là, parce que depuis l'enfance. Quand on était allé pour plomber, ils ont plombé ça, mais au fil des années, le plomb s'est enlevé. Mm-hmm. Le docteur avait dit non, qu'on devrait arracher, mais mon père n'a pas voulu qu'on arrache, puisque ça va rentrer la maxillaire, puis les dents vont aller. Donc, rien que l'année passée, il y avait des Égyptiens qui étaient venus au niveau du campus. Bon, je suis allé là-bas, et ils ont dit que forcément, il faut enlever la dent. Ils ont enlevé une maxillaire. Donc, ils m'ont donné un produit liquide que j'utilisais. Et souvent, quand je me brosse, il y a des saignements. Donc, quand j'utilisais ce produit-là, en tout cas, tout allait bien. Mais le produit-là est fini. Bon, j'ai essayé dans les pharmacies, je n'ai pas trouvé. J'avais perdu l'étiquette-là. Donc, j'explique un peu, mais en pharmacie, ils ne voient pas le produit-là.
C'est un bain de bouche que vous utilisiez ?
Ah ?
Un bain de bouche antiseptique ?
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Un bain de bouche.
Un bain de bouche.
Oui, alors, bonjour. Le plus souvent, après l'extraction d'une dent, on va donner un bain de bouche qui contient un antiseptique qu'on appelle la chlorhexidine. Il y a beaucoup de produits en France, mais je pense qu'on la trouve à peu près partout. Cette chlorhexidine a une bonne action antiseptique et c'est vrai que ça permet de nettoyer la bouche. Alors, ça ne remplace pas le brossage, hein, mais ça a un effet contre les bactéries, contre les virus de la bouche et ça permet comme ça d'avoir une bonne action antalgique. Alors, c'est comme avec l'amoxicilline. Il ne faut pas l'utiliser trop souvent et trop longtemps parce que d'abord, ça donne des colorations des dents, la chlorhexidine, si on l'utilise trop régulièrement. Et puis, ça peut donner des résistances bactériennes aussi. Mais j'imagine bien qu'après l'extraction de cette dent, ce qui a dû vous soulager, c'est ce produit, cette chlorhexidine, cet antiseptique qui peut véritablement bien soulager les choses. Maintenant, je suis un petit peu embêté parce que si vous avez de nouveau mal, peut-être que ce n'est pas la bonne dent qui a été extraite ou qu'il fallait en extraire une autre ou que l'infection est toujours présente et ça nécessiterait, en tout cas, il ne faut pas rester avec une douleur comme ça qui persiste.
Et ce n'est pas le seul bain de bouche qui va pouvoir soigner, peut-être soulager, mais pas soigner sous les mains.
Non, le bain de bouche, il est là en complément d'un traitement, d'une extraction d'une dent ou d'un soin, mais en lui-même, il ne peut pas être le seul traitement des douleurs de la bouche, ça c'est sûr.
Et Souleymane, est-ce que vous avez la possibilité de retourner voir un dentiste ?
Oui.
Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire pour vous soulager, parce que si vous souffrez justement de ces maux de dents, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Hein. Très très bonne journée, Souleymane. À vous, on part tout de suite pour le Mali. Hein. Sévaré ou Ousmane est en ligne. Bonjour Ousmane.
Oui, bonjour.
On vous écoute Ousmane.
La première question que moi j'ai à dire, moi j'ai beaucoup souffert de le carie dentaire. Mais le problème est que quand souvent si ça me fait mal, je pars à l'hôpital. Bon, il est stressé. Et souvent, ils me donnent des médicaments. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions que de ne pas l'extraire ?
Autre chose qu'arracher la dent, c'est un petit peu une question qui revient de façon récurrente. Hein. C'est les auditeurs qui n'ont pas envie de passer, on va dire, par la pince. Professeur Descroix, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Il y a d'autres solutions ?
Alors évidemment, il y a d'autres solutions. D'abord, il y a les solutions pour éviter les caries dentaires qui vont être, encore une fois, de bien se brosser les dents régulièrement, d'éviter de manger des aliments trop sucrés, de boire trop, de liquides sucrés, on pense à des grandes marques de soda qu'il faut éviter le plus possible. Donc vraiment, la carie dentaire, hein, elle existe parce qu'on oublie de se brosser les dents. Donc la première chose, c'est d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Et puis la deuxième chose qu'on avait déjà un petit peu abordée, c'est d'intervenir le plus tôt possible, c'est-à-dire de voir régulièrement un dentiste, ou dès qu'on commence à avoir une petite douleur qui n'est pas permanente, qui est seulement provoquée par le chaud ou le froid, là, d'aller voir très vite son chirurgien dentiste pour qu'il interrompe la carie, qu'il la nettoie, qu'il la traite, et pour éviter que la carie se répande à l'intérieur de la dent et qu'on n'ait plus aucune autre solution que l'extraction.
Donc, nécessité de se soigner. C'est toujours un petit peu la même réponse, mais en même temps, c'est le meilleur moyen pour que les choses n'empirent pas. Ousmane, on vous souhaite une bonne journée à Sévaré au Mali. On retourne en Côte d'Ivoire, Abidjan, où Amadou est en ligne. Bonjour Amadou.
Bonjour madame.
On vous écoute Amadou.
Ok, bon, moi concernant la carie, j'ai une préoccupation en fait qui me dérange un peu. Mm-hmm. Et donc je voulais demander au docteur de savoir est-ce que la carie provoque souvent le gonflement des gencives.
Alors, il y a deux choses. Le gonflement des gencives à la suite d'une carie, c'est parce qu'on a un abcès, le plus souvent, et que la carie a tellement progressé qu'elle s'est répandue dans l'os. Hein. On a dit tout à l'heure que la carie, c'est une infection bactérienne, et quand cette infection sort de la dent, elle va gonfler les gencives. Mais il n'y a pas que la carie qui peut gonfler les gencives, il y a aussi les gingivites, parce que les infections des gencives vont entraîner une inflammation de la gencive qui va devenir rouge, qui va devenir saignante, qui va devenir gonflée et qui va être très douloureuse. Donc le gonflement des gencives, c'est le plus souvent soit une carie qui est tellement importante qu'elle s'est répandue dans l'os, l'infection de la dent, soit une infection directement des gencives qu'on appelle une gingivite et qui peut nécessiter là aussi un traitement chirurgical.
Voilà, et Amadou, vous nous indiquez que vous avez ces problèmes de dents, malgré tout, vous avez une bonne hygiène dentaire, c'est ça?
Oui, j'ai une bonne hygiène dentaire, j'entretiens bien ma bouche le matin et soir, pas à midi, mais quand même le matin et soir, je me brosse bien et puis... Mais je ne comprends pas, en fait. J'ai une deuxième question à demander au docteur, en fait.
Oui, on vous écoute, Amadou.
Oui, est-ce que cette maladie, ces symptômes n'apparaissent pas dans la bouche, en fait?
Est-ce qu'il n'y a pas des manifestations buccales quand on souffre d'une maladie infectieuse? Je ne sais pas lesquelles auxquelles fait référence Amadou, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des manifestations sur la santé bucco-dentaire?
C'est une excellente question. Et je dirais que ça va dans les deux sens. Je vous remercie vraiment d'avoir posé cette question parce qu'elle est très importante. Les maladies de la bouche peuvent avoir des répercussions sur le reste du corps, peuvent entraîner des inflammations chroniques dans le reste du corps, au niveau des articulations, au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Donc il faut vraiment, c'est très important d'avoir une bonne santé bucco-dentaire pour la bouche évidemment, mais pour le reste du corps. Et puis beaucoup de maladies du reste du corps peuvent avoir des répercussions sur la bouche. Je pense par exemple à des choses comme le diabète, je pense à évidemment des maladies infectieuses comme le VIH, comme d'autres pathologies infectieuses qui peuvent évidemment altérer la santé de la bouche.
Pourquoi? Parce que ça agit sur l'immunité, ça agit sur la flore buccale?
Parce que ça agit évidemment sur l'immunité. Quand on parle de l'infection par le VIH, par exemple, les personnes vont être immunodéprimées et on va voir apparaître des infections de la bouche qui sont dues non pas à une maladie de la bouche elle-même, mais au fait que le VIH a diminué l'immunité des gens de façon très importante.
Tout à l'heure, vous parliez des aftes. Hein, c'est vraiment une manifestation classique quand on est immunodéprimé, l'apparition de ces aftes.
Exactement. Ces lésions de la muqueuse buccale, ces érosions de la muqueuse qui sont très douloureuses et qui peuvent être le signe d'une grande immunodépression. Mais des infections récurrentes de la bouche peuvent être aussi pour nous un signe d'alerte que le patient n'arrive plus à se protéger contre ces infections de la bouche.
C'est pour ça que quand on a une maladie chronique ou une maladie grave, on conseille aussi bien sûr de suivre les organes, la bouche, les yeux. Cette santé globale, c'est très très important, cette santé systémique.
C'est absolument essentiel. Et lorsque l'on se sait atteint d'une maladie systémique générale, une infection, une pathologie cardiaque, une pathologie endocrinienne, les soins de la bouche deviennent encore plus importants que chez n'importe qui.
Voilà Amadou pour cette réponse. Très bonne journée à vous, à Abidjan. On prend un auditeur du Niger, de Niamey, c'est Mahamadou. Bonjour Mahamadou.
Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs de la publicité santé.
On vous écoute, le professeur Descroix vous écoute.
Voilà. Depuis un certain temps, j'ai constaté une différence de volume entre mes deux premières molaires. C'est-à-dire la première molaire droite est un peu plus volumineuse que la gauche. Et quand j'essaie de toucher avec ma langue, c'est quand même c'est un peu rugueux. La langue est un peu rugueuse. Je ne comprends pas. J'attends que ce soit quelque chose de méchant, quoi.
Vous parlez d'un volume, d'une excroissance. C'est une excroissance au niveau de la dent ou c'est une excroissance au niveau de la gencive?
Non, c'est une excroissance au niveau de la dent.
Donc, il y a, on va dire que votre dent est déformée.
Voilà, exactement.
Professeur Descroix.
Alors, ça m'interroge un petit peu parce que une dent, elle ne peut pas augmenter de volume. Elle peut diminuer de volume parce qu'il y a une grosse carie et qu'on a perdu ce que nous on appelle on a perdu de la substance dentaire. Mais une dent en elle-même ne peut pas grossir. Ce qui peut vraiment changer de forme, c'est la gencive dessous. C'est effectivement l'os qui peut se déformer. Et si l'os se déforme, avant de parler d'une maladie gravissime, il faut déjà faire un examen radiologique, peut-être un petit prélèvement pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, il ne faut pas rester avec ce questionnement-là. Il faut vraiment consulter. Lorsque l'on sent des déformations à l'intérieur de la bouche, c'est vraiment l'occasion d'aller voir un chirurgien dentiste ou un stomatologiste ou quelqu'un qui va avoir la capacité d'aller regarder au niveau du tissu osseux. Je pense que l'excroissance, elle est plus au niveau de l'os que de la dent. Très difficile à voir tout seul avec sa langue. Hein. C'est pas simple à regarder. En tout cas, c'est un signe qui ne doit pas être laissé comme ça. Et il faut vraiment consulter.
Et on a besoin de trouver une solution, au moins d'être rassuré. Bonne journée à vous, Mahamadou, à Niamey. On prend un dernier auditeur. Et c'est une auditrice. C'est Avicenne qui est en ligne du Congo-Brazzaville, de Brazzaville. Bonjour Avicenne.
Oui. Bonjour Caroline. Bonjour docteur.
On vous Bonjour. Écoute Avicenne.
Et voilà. Mon souci, c'est que voici bientôt 20 ans que j'ai toujours des soucis dentaires. Mais l'inquiétude est que les douleurs que j'ai ne se limitent pas seulement au niveau de la bouche, mais aussi au centre de ma tête. Au fond, je me demande, c'est comme si je portais une charge, et cette douleur peut se découler jusqu'au niveau de la poitrine. Et ma question est de savoir, est-ce qu'une douleur dentaire peut créer un autre souci au niveau du cerveau par rapport à ce que je sens? Et parce que quand j'ai très mal, même mon cuir chevelu, j'ai peur de le toucher parce qu'il me fait tellement mal. Et surtout, il ne faudrait pas que je sois pieds nus encore. Parce que dès que j'ai froid, j'ai tout de suite mal à la tête, j'ai mal à la dent et j'ai mal partout dans ma bouche.
Donc de terribles, terribles maux de tête, des douleurs qui dépassent largement la sphère dentaire.
Oui, justement.
Professeur Descroix, qu'est-ce que vous pouvez dire à Avicenne?
Bonjour Avicenne. Il y a une chose qui est certaine, c'est que une douleur dentaire ne dure pas 20 ans et que lorsque l'on efface, il y a deux choses importantes à comprendre là. Hein, c'est que une douleur de la bouche aiguë infectieuse, elle ne dure pas 20 ans et donc a priori, ce qui touche Avicenne, ce ne sont pas ses dents. Et si c'était une tumeur, ça n'aurait pas duré non plus 20 ans. Donc il faut à la fois se rassurer, c'est pas forcément un cancer ou c'est pas forcément tumoral et aussi se dire que c'est certainement pas les dents. Et peut-être qu'on est face, là, du coup, plutôt à une névralgie, à une céphalée, à des choses qu'on connaît plutôt bien, comme des migraines ou d'autres céphalées. Et la question d'Avicenne est importante pour tous les auditeurs, c'est que parfois, on pense que ce sont des douleurs qui sont liées aux dents ou à la bouche, et c'est simplement le point de départ d'une névralgie, d'une céphalée, d'une douleur plutôt neurologique que dentaire. Et là, ça vaut évidemment le coup de consulter un neurologue pour essayer de trouver un bon diagnostic.
Mais au moins peut-être aller déjà voir son généraliste.
Déjà son généraliste,
pour qu'il nous oriente ensuite vers un spécialiste. Voilà, Avicenne, on vous souhaite une bonne journée à Brazzaville. Et on va voir justement une autre illustration sur un autre continent de ces questions de santé bucco-dentaire, puisque l'on va rejoindre tout de suite la sphère Caraïbes.
RFI.
Et précisément, Haïti. Merci d'être en ligne avec nous, docteur Guerrier Gabon. Bonjour.
Bonjour, Caroline Paré, bonjour, Vianney Descroix, le docteur, alors le professeur de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, et bonjour Haïti, bonjour le monde.
Bonjour à vous, il est encore tôt ce matin en Haïti chez vous, vous êtes dentiste généraliste à l'hôpital public Sainte-Rose de Lima, et également à la clinique bucco-dentaire de Nazon à Port-au-Prince. Alors, on disait tout à l'heure, des gens souvent qui viennent voir le dentiste un petit peu tard. Est-ce que c'est aussi la même chose chez vous en Haïti, docteur Guerrier Gabon?
Mais bien oui, parce que du point de vue épidémiologique, généralement, Et les douleurs dentaires représentent environ 60 à 65% des motifs de consultation chez un chirurgien dentiste.
Donc on vient vous voir quand on a mal déjà?
Bien sûr, bien sûr.
Et justement, les personnes qui souffrent de douleurs dentaires, quand elles arrivent en consultation chez vous, pour la plupart des cas, il s'agit de quelle pathologie dentaire?
Généralement, les gens viennent pour la douleur dentaire, mais après les examens cliniques, on voit que ce sont les caries qui ont progressé jusqu'aux affections pulpaires, c'est-à-dire les caries qui passent de la, du premier degré, du deuxième degré jusqu'à complications pulpaires. Et généralement, c'est pour les douleurs dentaires que les gens viennent à la clinique.
Est-ce que votre pays Haïti compte beaucoup de dentistes, docteur Guerrier Gabon?
En 2014, la faculté d'odontologie de l'Université d'État d'Haïti a fait une recherche. Normalement, on a vu que nous étions aux environs 350 à 400 dentistes. Maintenant, les chiffres, bien sûr, ont évolué, mais je pense qu'il n'y a pas assez de dentistes pour la population haïtienne, bien entendu.
Surtout quand on dit qu'il faut avoir un suivi régulier, même quand on ne souffre pas des dents. Très difficile, hein, cette prévention, docteur Gabon, quand il y a si peu de spécialistes.
Bon, de toute façon, même s'il n'y a pas autant de spécialistes, mais avec l'éducation et la formation surtout, et surtout dans les milieux reculés d'Haïti, je pense que les personnes peuvent venir voir les dentistes, même si dans les grandes villes, je pense que ça peut aider quand même à faire quelque chose, même quand les dentistes ne sont pas suffisants pour toute la population. Mais c'est quand même, les dentistes qui sont là, il faut quand même faire l'éducation des gens malgré tout.
On va reparler justement de ces messages de prévention, mais d'abord j'avais cette question très concrète, docteur Guerrier Gabon. Est-ce que ça coûte cher en Haïti de se faire soigner les dents? Est-ce que c'est un frein justement pour un bon suivi de cette santé bucco-dentaire?
En réalité, les soins bucco-dentaires en Haïti, ça varie d'une clinique à d'autres. Normalement, dans les cliniques privées, ça varie entre 35 à 40 dollars américains. Lorsque je dis 35 à 40 dollars US, ça signifie c'est entre 2000 à 2500 gourdes par consultation.
Donc on est aux alentours de 40 euros environ, c'est quand même assez cher pour la population.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous délivrez donc ces messages de prévention ou est-ce qu'il y en a auprès des délivrés par les centres de santé publique? Comment les gens savent en fait quels sont les bons gestes pour justement éviter ces fameuses caries?
Normalement, moi, je travaille dans un hôpital public de province d'Haïti. En réalité, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu la chance de faire une petite éducation pour les gens, pour les éduquer par rapport à l'hygiène bucco-dentaire. Mais en réalité, c'est quelque chose de plus en plus difficile en Haïti lorsqu'on sait que normalement, il n'y a pas beaucoup de dentistes et la situation est un petit peu difficile, mais quand même, on essaie quand même de faire une petite éducation et pour permettre aux gens de visiter leurs dents et de prendre soin de leurs dents pour empêcher qu'elles aient de douleurs dentaires pour visiter un dentiste.
Merci beaucoup pour ces explications, docteur Guerrier Gabon. Je rappelle que vous êtes dentiste généraliste à l'hôpital public Sainte-Rose de Lima.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Professeur Vianney Descroix, on vous retrouve. Cette question de l'accès aux soins dentaires, c'est une réalité. On l'a entendu tout à l'heure avec certains de nos auditeurs. Et c'est vrai aussi, hein, y compris en France, dans certains milieux, même s'il y a des remboursements, ce n'est pas toujours simple d'avoir le geste d'aller chez son médecin. Parce que quand on nous a dit il faut arracher une dent, il faut la remplacer, eh bien c'est cher parfois ces soins dentaires.
Et c'est exactement ce qui va limiter finalement l'accès aux soins, même des patients français, effectivement, c'est le taux de remboursement de ces soins. Et nous travaillons aujourd'hui beaucoup pour qu'il puisse y avoir un accès à la plus possible de personnes, malgré ces coûts. Il faut savoir aussi qu'un cabinet de chirurgien dentiste coûte pour le chirurgien dentiste très cher et qu'il a besoin aussi d'entretenir son cabinet. Le vrai problème est effectivement que l'État français puisse rembourser correctement ses soins et que tout le monde puisse s'y retrouver dans cet accès aux soins.
Alors il y a encore un certain nombre de questions qu'on n'a pas abordées. Je vais vous les poser un petit peu pêle-mêle, notamment des questions que nous posent nos auditeurs sur la page Facebook de l'émission, comme Fred du Togo. Comment blanchir ses dents de façon naturelle? Ou encore Hassan, qui lui nous dit, est-ce que les produits utilisés pour blanchir les dents ont des effets secondaires? J'aimerais bien les utiliser, mais j'ai peur. Alors, blanchir, nettoyer ses dents, c'est une chose. Blanchir avec des produits, c'en est une autre.
Complètement. Il faut faire très attention parce que les produits qu'on utilise, alors les produits professionnels faits par un chirurgien dentiste sont très contrôlés. Le professionnel de santé sait exactement quelle concentration utiliser. C'est généralement des produits à base de peroxyde d'hydrogène, donc qui sont relativement agressifs et qu'il faut vraiment pas faire ça tout seul dans son coin. Ça peut irriter beaucoup les gencives, ça peut agresser la pulpe dentaire. Donc, il faut être très prudent avec ces produits de blanchiment. Dans certains pays, ils sont vendus en vente libre, mais on voit véritablement des grands dégâts sur les dents et sur les gencives.
Donc, est-ce que justement en consultation, il y a des gens qui arrivent avec les effets secondaires de ces produits? Est-ce que vous êtes là un petit peu pour rattraper?
Alors, rattraper, c'est parfois déjà trop tard. C'est-à-dire que lorsque les produits qui ont été utilisés sont trop agressifs, les tissus dentaires ou la gencive a été malheureusement attaquée définitivement. Et il faut être vraiment très prudent avec ces produits.
Alors, il y a un autre point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On va le faire tout de suite, professeur Vianney Descroix. C'est les chocs, les accidents. Attention à nos dents, c'est fragile.
C'est très fragile et il faut être effectivement extrêmement prudent par rapport à ça. Pour les sports de combat, utiliser des protège-dents, même pour des sports collectifs, parce que les fractures dentaires, les dents ne repoussent pas. Donc une fois que la dent est fracturée, ça peut avoir des conséquences non négligeables, au-delà du fait que c'est extrêmement douloureux.
Est-ce qu'il y a des périodes de la vie justement qui appellent à une vigilance particulière en matière de soins, en matière d'hygiène dentaire? D'abord bien sûr les premières dents et puis l'adolescence, peut-être aussi certains moments clés de la vie où notre corps est plus sollicité. Je pense par exemple aux femmes enceintes.
C'est ça. Alors la grossesse, par les modifications hormonales que ça entraîne, par le fait aussi qu'elles vont avoir peut-être des fringales ou plus de grignotage, va être un moment particulier. Alors, le mythe qui voudrait qu'un enfant, une dent, on l'a souvent entendu, n'est évidemment pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les femmes enceintes ont besoin d'avoir des examens bucco-dentaires plus fréquents que les autres personnes.
Et sur les personnes âgées aussi, des questions particulières?
Alors, c'est effectivement vrai aussi. C'est-à-dire que là où les jeunes enfants vont avoir mal à la bouche parce que les dents poussent, les personnes plus âgées peuvent avoir mal à la bouche parce que les dents tombent et se déchaussent naturellement. On perd à chaque année de notre vie un petit peu de support osseux des dents et qu'évidemment, il faut avoir une attention tout à fait particulière avec le vieillissement. Les dents vieillissent, la bouche vieillit aussi et il faut être très vigilant à ce moment-là.
Merci beaucoup, professeur Vianney Descroix, d'être venu dans nos studios de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes chef de service odontologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avec vous, on n'a plus peur d'aller chez le dentiste.
Priorité Santé sur RFI.
C'est un projet de recherche développé par les enseignants-chercheurs de l'École des hautes études d'ingénieurs de Lille, l'HEI, projet novateur, qui existe déjà pour les adultes. Cette fois, adapté aux besoins pédiatriques, il s'agit d'un exosquelette destiné aux enfants atteints de paralysie cérébrale. Ils ne peuvent pas marcher. Objectif, améliorer la qualité de vie de ces enfants polyhandicapés. Pour en parler avec nous, Laurent Perraudy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'HEI, porteur de ce projet européen. On dirait motion en français, mais bien sûr, il s'agit de motion en anglais, la locomotion, se mouvoir. Alors, Laurent Perraudy, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer aux auditeurs de Priorité Santé ce que c'est généralement un exosquelette?
Un exosquelette est une structure mécanisée qu'on fixe sur le squelette humain, enfin sur les bras, les jambes, et qui aide la personne dans ses mouvements. Donc il y a des moteurs dessus qui vont faire l'entraînement des mouvements.
Dans le cas de cette armature, cet exosquelette particulier, par quel moyen justement arrive le mouvement ?
Là, nous, dans un premier temps, comme ce sont des enfants cérébro-lésés, on va générer un pas dit automatique. C'est-à-dire qu'à l'aide de la morphologie de l'enfant, on va prévoir la trajectoire et on va lui faire faire ce pas.
Est-ce que vous avez déjà préparé des premiers squelettes, des premiers exosquelettes, visualisé, matérialisé ce projet, ou on en est vraiment encore au stade initial ?
On n'en est plus au stade initial, on a une première version, mais qu'on doit encore améliorer, notamment pour la partie définition d'une trajectoire en fonction de la morphologie de l'enfant, et surtout pour l'équilibre. C'est le challenge, c'est qu'on ne veut pas une structure qui soit maintenue par ailleurs, on veut vraiment une structure autonome.
Est-ce que ces objets, un petit peu ces armatures, mi-machines, mi-robots, ont déjà été présentées aux enfants? Est-ce qu'ils les ont vus? Est-ce qu'ils vous ont dit justement ce qu'ils en pensaient?
Ah non, on n'a pas encore...
Vous n'avez pas encore expérimenté directement. Et justement, ça existe déjà pour les adultes. Quel défi particulier lorsqu'on propose justement, Laurent Perraudy, ce type d'exosquelette dans le cadre pédiatrique?
Donc le défi, il est de deux ordres. Un défi technique parce que les enfants grandissent. Donc il faut que la structure s'adapte à la taille de l'enfant en fonction de l'âge. Ça, c'est un défi technique important. Le deuxième défi, c'est de mesurer ce que ressent l'enfant et de mesurer d'abord son ressenti à lui, puis de mesurer via des capteurs. Donc ce sont les deux gros défis actuels. Et le troisième défi, il est effectivement plus, on va dire, industriel, c'est-à-dire comment proposer des structures moins chères que celles actuelles, quoi.
Parce qu'il y a vraiment cet obstacle du coup qui est énorme. Combien d'enfants pourraient être concernés par cette nouvelle technologie qui est donc encore au stade du développement, hein, on l'a dit, Laurent Perraudy?
Oui, tout à fait. Donc là, nous, comme c'est un projet interreg des deux mers, donc les régions qui bordent la mer du Nord et la Manche, donc l'Angleterre, la Hollande, la Belgique flamande et le nord de la France, enfin la région de France, là, il y a 4000 enfants qui sont concernés directement avec cette pathologie d'enfants cérébro-lésés. Mais on pourrait ensuite éventuellement étendre aux enfants qui ont, qui ne peuvent plus marcher, qui sont dans un fauteuil roulant. Quoi. C'est un peu l'idée, c'est de sortir ensuite les enfants des fauteuils roulants.
Et leur redonner du mouvement. On a dit projet en développement, on peut penser qu'il pourrait aboutir à quelle échéance ?
Donc nous, notre projet à proprement dit dure 4 ans, enfin 45 mois à partir d'aujourd'hui, mais... À la fin du projet, comme ce sont des structures dans lesquelles on met des enfants, on doit valider un certain nombre de critères, notamment de sécurité. Donc, on va dire en 4 années pour avoir un prototype qu'on pourra tester sur une grande échelle, et ensuite, on va dire 4 autres années pour mettre quelque chose sur le marché.
Alors, une dernière question, un équipement qui est conçu pour être associé à la prise en charge en rééducation, réadaptation. Forcément, vous travaillez avec des médecins qui sont impliqués dans ces spécialités. Comment ça se passe, Laurent Perraudy ?
Ça se passe, on va dire, bien. Hein. C'est que, bon, moi, j'ai une grande expérience, j'ai travaillé avec les médecins de par ma fonction ici au sein d'HEI, vu que je suis responsable du domaine ingénierie médicale et santé. Et les médecins sont des gens très ouverts, qui ne pensent qu'aux soins du patient. Et donc, ils sont prêts à nous écouter. Et nous, on essaye d'être, le plus pédagogique possible, notamment sur les aspects technologiques. Bien que des fois, ils soient aussi bons que nous en technologie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications, Laurent Perraudy. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'École des hautes études d'ingénieurs de Lille, porteur donc de ce projet, on l'a compris, européen, ce projet Motion. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez Toussamaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. On se retrouvera lundi dès 9h10 temps universel. Nous parlerons de la séparation, comment y faire face, comment dépasser cette étape et reprendre confiance en soi et en les autres. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.